Alors, comment annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile ou la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Je pense que vous avez bien compris maintenant dans cette église que ce qui est important, c'est annoncer le royaume. Et le royaume n'est pas que l'église. L'église est une partie du royaume, mais ce n'est pas tout. L'église est une parenthèse dans l'histoire, puisqu'elle a commencé à la Pentecôte et elle finira au retour de Jésus. Mais l'éternité, c'est plus grand que ça. L'éternité, c'est l'éternité. Là, c'est une parenthèse dans l'histoire, d'une part. Et d'autre part, l'Église ne concerne que les humains, les nations, alors que dans le royaume, il y a bien d'autres créatures que les humains. Il y a les anges, les êtres vivants, il y a toutes sortes de choses qu'on va découvrir, que Dieu a créées. Et peut-être d'autres qu'il va créer, parce qu'il est un Dieu de création. Donc le royaume, Dieu règne sur toutes ces créatures, il règne sur l'univers, il règne. Vous voyez, c'est tout ça, le royaume de Dieu, parce qu'il règne. Et nous voulons qu'il règne dans nos vies. Donc nous faisons partie de ce royaume, mais nous ne sommes pas le royaume. Et l'Église n'est pas le royaume. C'est la théologie de la substitution qui a beaucoup fait des dégâts. Pendant des siècles à cause de ça. Donc nous n'allons pas tomber dans ces travers et nous allons vraiment regarder les aspects du royaume tels que Jésus nous les a apportés. Et nous avons lu, et je ne vais pas le lire ce matin parce que ce serait quand même une relecture un peu lourde, dans Luc 24. Ceux qui n'auraient pas été là à ce moment-là, vous notez les références, vous les lisez chez vous, Luc 24, du verset 13 à 35, qui est le partage avec les disciples d'Emmaüs, de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, au lendemain de sa résurrection, où il leur annonce, en fait, il leur ouvre les yeux quelque part sur la révélation de ce que les prophètes ont annoncé et qui s'est accompli dans la personne de Jésus lui-même. Et nous voyons la manière dont Jésus annonce ce royaume de Dieu, cette bonne nouvelle de l'Évangile, pour lesquelles il n'était pas disposé jusque-là à l'écouter, parce qu'il s'attendait à un roi, un messie qui allait les délivrer du joug des Romains, donc d'un pouvoir temporel, alors que Jésus est venu pour parler du pouvoir spirituel. Et donc là, il leur ouvre les yeux, mais il a une manière de le faire. Et il prend l'écriture. Donc, quand il est dit que Jésus ouvre l'écriture, c'est l'Ancien Testament, parce que le Nouveau n'était pas écrit. Et c'est pourquoi, quand on parle de l'écriture, c'est aussi important de considérer l'Ancien que le Nouveau Testament. Moi, je sais que j'étais dans le catholicisme jusqu'à mes 20 ans et je ne connaissais pratiquement pas l'Ancien Testament parce que, bon, même récemment, quand on a eu, je crois, il y a un an et demi, une rencontre œcuménique, on parlait de la parole, je ne sais plus exactement le thème où c'était, donc chacun a expliqué à sa manière. Donc, moi, j'ai parlé de l'écriture, je crois que Lukonovitch a une intervention. Puis il y a un prêtre, un jeune prêtre, là, qui vient d'être formé, et qui a dit qu'effectivement, l'Ancien Testament, on ne pouvait pas le donner comme ça. Et donc, dans les messes, tout ça, ils prennent des extraits, parce qu'il y a des choses qui sont compliquées, tout ça. Donc, c'est le prêtre qui sélectionne, vous voyez, des passages de l'écriture. Il y en a qui posaient des questions dans la salle. C'est vrai que de laisser l'Ancien Testament à la lecture, ce n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de passages qui ne sont pas évidents à comprendre. Mais n'empêche que c'est quand même la parole de Dieu. Et donc, c'est le protestantisme qui a donné cette liberté de lecture. Et moi, je n'avais pas cette connaissance de l'Ancien Testament. Et pourtant, c'est l'Écriture. Voyez-vous, Jésus citait l'Écriture. Et l'Écriture, c'est l'Ancien Testament. Donc, on a besoin de s'imprégner de l'Ancien Testament, qui, en fait, est une parole prophétique qui, justement, annonçait Jésus qui allait venir. Et Jésus cite cette écriture comme étant l'aboutissement de cette prophétie et de ces prophéties qui ont été annoncées depuis les temps anciens. Et donc, sa démarche, ça porte sur l'histoire, ça porte sur le déroulement de l'histoire qui avait été annoncée et qui s'accomplit tout naturellement parce que Dieu est le maître de l'histoire. Alors, ce qui est important dans mon message, c'est de comprendre, bien sûr, la révélation générale de l'Écriture, mais aussi la révélation particulière. Et chacun de nous, nous avons une histoire. Il y en a qui ont une histoire personnelle, hein ? Tous, nous avons une histoire. Hein ? Et cette histoire, eh bien, c'est Dieu qui veut la conduire. Amen. Donc, si nous comprenons comment il conduit l'histoire générale, nous comprenons aussi l'histoire particulière de chacun de nous. Nous voyons les vicissitudes, les difficultés, les problèmes, les attentes, enfin, toutes ces choses-là, ça fait partie de notre histoire. Et aussi l'histoire de l'Église, et de notre Église en particulier, de chaque Église, hein, chacun une histoire. Et si nous remettons cette histoire entre les mains de Dieu, nous sommes conduits par lui d'un point de départ, un point d'aboutissement. Nous sommes dans un projet de Dieu, dans un plan de Dieu. Et c'est ce que dit Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 13, que Dieu a un plan, un dessein, un but bienveillant pour chacun de nous. Amen. Et donc Jésus, dans cet entretien avec les disciples, eh bien, il parle de l'Écriture et des prophéties qui se réalisent et qui se réalisent en Jésus. Et bien sûr, la particularité de ses disciples, c'est d'avoir Jésus comme interlocuteur, ce qui n'est pas notre cas. Quand nous témoignons à quelqu'un, nous ne sommes pas Jésus, mais nous pouvons être le porte-parole, hein, de ce Jésus. Et comme Philippe l'a fait, nous pouvons tous le faire comme parlant de ce Jésus qui est venu. Et donc Jésus l'a fait lui-même. Et à la fin de cet entretien, qui était une présentation de l'Écriture et de son accomplissement, donc il rendait gloire à Dieu qui a prévu toutes ces choses-là, eh bien il y a la communion, voyez-vous, la communion, la relation. Et c'est dans cette relation, quand il commence à rompre le pain, hein, il l'invite chez lui, il rompt le pain, c'est cette relation, dans cette relation que leurs yeux s'ouvrent. Et très souvent, c'est dans une relation, hein, que nos yeux s'ouvrent. Moi, je sais qu'à l'âge de 20 ans, c'est quand j'ai rencontré un ami, qui était un camarade d'enfance, quand j'étais en relation, sa manière de relationner, j'ai vu que ses attitudes ont changé, ses comportements ont changé. Et c'est ça qui m'a touché, c'est ça qui m'a ouvert, qui m'a donné cette ouverture à lire l'Écriture, avec l'idée que cette relation que lui avait privilégiée avec Jésus, je pouvais l'avoir aussi. Donc la relation est au centre de notre témoignage aussi. Amen. Voilà, donc nous allons aller plus loin, comme nous l'avons fait d'ailleurs, déjà la dernière fois, dans Acte 2, donc ça, c'était la deuxième lecture que nous avons fait, qui est aussi un exemple d'évangélisation, cette fois-ci fait par l'apôtre Pierre. Hein. Et là, c'est une évangélisation très particulière, puisque c'est la première fois que l'évangile est annoncé. Hein. Donc c'est une première, un peu comme une pierre de fondation. Un peu comme c'est l'Église, puisque Pierre représentait l'Église à ce moment-là, les 12. Eh bien, c'est comment annoncer l'Évangile. Alors, simplement la difficulté, enfin pas la difficulté, mais la complémentarité que je vais vous présenter. Bien sûr, Jésus, c'est la présentation parfaite de l'Évangile, parce qu'il est incarné, parce que lui-même se présentait aux disciples. Pierre et Paul vont présenter Jésus. Donc c'est un peu plus proche de nous, notre manière d'évangéliser. Ceci étant, on voit que les mêmes repères se trouvent dans cette évangélisation de Pierre et de Paul. Par contre, l'interlocuteur est différent. Pierre s'adresse aux Juifs et Paul s'adresse aux païens, aux Grecs, à Athènes. Donc à Jérusalem, Athènes. Et vous savez, nous, on est une civilisation post-chrétienne, mais quand même imprégnée de la culture judéo-chrétienne. Et donc, nous avons ces deux éléments dans notre culture, la culture judéo-chrétienne et la culture païenne, puisque vraiment, depuis la Révolution française, qui a marqué le glas de la déchristianisation, enfin, qui a marqué le départ de la déchristianisation forcée, hein, nous sommes dans une civilisation païenne. Totalement païenne, hein, qui se veut vraiment sans Dieu, qui se veut autonome avec le peuple qui gouverne. Donc nous sommes vraiment dans la civilisation païenne, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est légalement, ça a été décrété par le peuple français, ça a été approuvé et réapprouvé, et toutes les républiques l'approuvent, puisque c'est dans notre constitution française. Donc il ne faut pas rêver. Nous sommes actuellement dans cette civilisation qu'on appelle post-moderne aussi, parce que post-modernisme, c'est qu'on ne croit plus à la science, on ne croit plus en grand-chose d'ailleurs, hein. On ne croit plus qu'en l'homme, quoi. Et donc, vous voyez, c'est très fragile, puisque la science encore, ça donnait des perspectives. Au XIXe siècle, on rêvait que la médecine allait tout régler, allait apporter même l'immortalité. Bon, et, enfin, tout le rêve de la science. Et ce rêve a disparu au XXe siècle avec les guerres mondiales. Quand on a vu l'Holocauste, quand on a vu les canons qui pouvaient, et puis la bombe atomique qui pouvait détruire toute l'humanité. Donc la science, elle n'est plus le rêve. Hein. Et qu'est-ce qui reste comme rêve? Eh bien, plus que l'homme, l'individu, moi. Donc on est dans cette civilisation post-moderne où on ne croit plus que dans le moi. Et il faut vivre le mieux possible, le plus vite possible. Il faut dépenser l'argent le plus vite possible parce qu'on ne sait pas demain. Vous voyez, c'est ça, c'est cette culture de l'immédiat. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Je ne sais pas si vous êtes obligé de vous battre avec les courriers que vous recevez. Hein. Vous recevez de plus en plus de courriers qui, à la limite, ils vous prennent juste la main pour signer le chèque. Vous avez 3 200 €, vous avez 4 000 €, vous avez tout ce que vous voulez. Hein. Non, ça ne vous arrive pas, hein, tout le temps. Il n'y a pas que moi. Il envoie tout le monde. Non, mais je ne sais pas, peut-être que les pasteurs, ils reçoivent des courriers comme ça. Hein, c'est TLM, machin et tout. Bon, vous n'avez qu'à signer. Ça ne vous coûte rien. Maintenant, c'est 3% de TEG. Enfin, c'est fou, quoi. D'ailleurs, mon chef, une fois, c'est un peu d'humour. Hein. Mon chef, il m'a dit, c'est dommage, là, que je pouvais... Il avait trouvé une astuce. Enfin, bon, c'était un peu rigolé. Il a dit, si je veux être riche, je prends tous ces courriers-là qui arrivent. Vous les signez tous, vous recevez des chèques, hein, vous recevez 3 000 € de 20, 5 000 €, 10 000 €, vous pouvez être millionnaire, et puis hop, vous tirez à l'étranger, terminé. Vous ne payez plus. Ouais. Mais je veux dire, à la limite, si on est vraiment tordu, on peut le faire. Hein. Bon. Vous allez dans un paradis fiscal, personne ne peut vous poursuivre, et puis vous avez l'argent, vous avez empoché les chèques, vous ne remboursez pas, c'est tout. Mais vous voyez, on arrive à ce constat de l'immédiateté. On vous donne de l'argent, vous en faites pas pour l'immédiat. Vous le dépensez, vous payez tout ce que vous voulez et ça marche. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus de science, il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus... Le marxisme faisait rêver. Pourquoi en France, on était très marxiste? Enfin, les communistes étaient très forts. Là, ça s'est écroulé. Hein. Ça représente quelques pourcents maintenant. Hein. Alors, c'était très fort. Parce que le français est rêveur. Hein. Enfin, il rêve à l'égalité, il rêve à la justice, il rêve au communisme. Et tant que le communisme, il n'ouvrait pas ses portes pour montrer ce qu'il y avait derrière, ben, ce rêve, il perdurait. Quoi. Et les Français, particulièrement, sont dans cet idéalisme pur, parfait, une civilisation idéale. Bon, ça peut être un... dans un certain sens, une qualité pour les arts, pour la création, etc. Mais c'est pas ça, la Bible. La Bible montre que l'homme, il est cruel. Ça montre que l'homme, il n'est pas parfait. L'homme, vous voyez, c'est pas ça, la Bible. C'est pas l'idéalisme français. C'est que la Bible montre l'homme tel qu'il est, la femme telle qu'elle est. Et qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin d'un messie, on a besoin de quelqu'un qui nous arrache de nos péchés, de nos tendances. Et alors, nous pouvons vivre une vie parfaite parce que Jésus est parfait, parce que Dieu est parfait. Amen. Vous croyez ça? Et là, nous devons être des hommes et des femmes dans notre génération qui annonçons la réalité de cette parole et de cette vérité. Pour ne pas emmener les gens dans une illusion, parce que c'est une illusion après une autre illusion. Avant, c'était l'illusion de la science. Vous voyez, ça donnait deux guerres mondiales avec les bombes Hiroshima, etc. Et là, qu'est-ce que ça va donner de croire en l'homme parfait, en l'homme individuel? Ça donne quoi? Vous voyez bien que c'est une bulle. Comme la bulle Internet qui a fait des dégâts, ben là, ce sera une terrible bulle, énorme. Hein, quand l'homme découvrira, en plus, il le sait qu'il n'est pas parfait. Donc pourquoi le croire, voyez ? Mais on préfère croire à ça que croire en Jésus. On préfère croire à une illusion que croire à la réalité de la parole de Dieu. Alors donc, pour revenir à mon sujet, Pierre s'adresse aux Juifs. Aux Juifs qui sont censés connaître la parole. Aux Juifs qui sont censés attendre ce que la parole annonce par les prophètes. Les Juifs qui sont là, qui devraient attendre le Messie tel qu'il est, et non pas tel qu'eux, ils le pensent. Et donc, dans Acte 2, vous avez cette lecture, de verset 16 au verset 37. Je vais juste lire quelques passages dans la version français courant. Juste pour nous imprégner de la manière dont Pierre annonce l'Évangile, hein, et qui est une manière universelle, en tout cas par rapport à des gens qui sont des Juifs ou des judéo-chrétiens pour nous. Et Pierre se leva et se mit à parler d'une voix forte et dit à la foule, « Maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers temps. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront. » Et oui, il actualise la parole. Il dit, voilà le temps présent que nous vivons ce qui a été annoncé. Et un chrétien, tel que nous sommes, quand nous annonçons les choses, nous devons arriver à actualiser ce que nous croyons. Je veux dire, aujourd'hui, Dieu agit de telle et telle manière. Voyez-vous, nous ne parlons pas d'une philosophie de religion, nous ne parlons pas d'un Dieu abstrait, nous parlons d'une réalité concrète. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de témoignage, de dire, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, quand Evelyne, l'autre jour, était là, première réunion, bon, parlait de ce qui s'est passé, et c'était tout simple. Et ça touche, parce qu'on voit que Dieu est là, dans mon histoire, dans ce que je suis en train de vivre. Et au verset 22, donc je saute pas mal le verset, il dit « Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a montré l'autorité. » Voyez-vous, ce n'est pas Jésus, c'est Dieu, le Père, qui au travers de Jésus vous a montré l'autorité. L'autorité s'est manifestée au travers de Jésus. Dieu a accompli par lui toutes sortes de miracles, de prodiges au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et c'est pourquoi nous disons que nous qui sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas appelés à prier pour les malades, mais à guérir les malades, guérissez les malades. C'est-à-dire nous devons prendre autorité, l'autorité de Jésus, puisque Jésus a pris l'autorité qu'il recevait du Père, et nous aussi, nous sommes amenés à prendre autorité sur la maladie, sur les démons, etc. Ça, c'est le royaume. Et cet homme, dit-il au verset 23, vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer à une croix par des hommes pécheurs, mais Dieu l'a ramené à la vie. Ça veut dire quoi ce message ? Ça veut dire quoi ? Quel est le contenu, je dirais, synthétique du message de Pierre quand il parle de cette manière-là ? Bien, Pierre, il parle du sens de l'histoire et de la vanité de la sagesse humaine. Et où la sagesse humaine, le principe des philosophies, puisque c'est l'amour de la sagesse, les gens aiment tellement la sagesse qu'ils parlent de l'amour de la sagesse. Ils ne parlent pas de l'amour de Dieu. Nous devons avoir l'amour de Dieu. Mais les païens, ils ont l'amour de la sagesse, la philosophie. Et cette philosophie conduit à quoi ? Eh bien, conduit, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la philosophie est à l'inverse de la sagesse de Dieu. Elle conduit exactement à l'opposé du plan de Dieu. C'était quoi le plan de Dieu ? En l'occurrence pour Jésus, pour nous, pour l'humanité. Le salut. Et comment s'opérer le salut ? Comment s'opérer le salut ? Comment est opéré le salut dans l'histoire ? Jésus a pris nos péchés à la croix, il est mort à la croix, et, voilà. et Dieu l'a ressuscité. Et comment ont réagi les hommes dans leur sagesse ? Puisque ceux qui ont réagi, ce sont les chefs, ce sont les sages, ils se sont réunis, vous savez, le Sanhédrin était composé des sages d'Israël. Hein, c'était pas le vulgaire du coin qu'on a demandé. Non, c'est les sages, c'est-à-dire ceux qui prennent les grandes décisions de l'État. Et qui ont été cooptés par leur père pour aller là. C'est pas le hasard. Bon. Et quelle a été la décision de ces sages, de cette sagesse humaine? Pardon? Non, non, ça c'est pratiquement la sagesse de Dieu, ça. Non, la sagesse des hommes, c'est de mettre à mort Jésus. Ils ont décidé de le mettre à mort. Non pas qu'un seul meurt. C'est que... Ah oui, un seul meurt au sens où... Oui, parce qu'ils avaient peur de... Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'ils étaient dans la logique, effectivement, que Jésus était un révolutionnaire et qu'il allait leur amener la... Mais bon, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que la sagesse des hommes, c'était de décréter, d'avoir un verdict. Ils ont eu un procès, hein. Bon, un procès truqué. Bon. Mais c'est toujours comme ça, hein. Les gens, ils procèdent à des procès truqués. Hein. C'est comme l'Assemblée nationale, quand ils veulent passer quelque chose, ils truquent les choses. Hein. Moi, je sais que l'aérospatiale, quand on voulait construire l'A380, c'est un bel avion, l'A380, bon, ça vaut le coup. Bon. Mais ils avaient des problèmes en Aquitaine, parce que... Comme les gros tronçons venaient de Brême, d'Allemagne, ils venaient par bateau à Bordeaux et il fallait les amener à Toulouse. Bon, pour y aller, il n'y avait aucune route qui existait, donc il fallait qu'ils créent une route. Bon, c'était besoin national. Mais les maires du coin, ils n'étaient pas d'accord. Je veux dire, mettez-vous à leur place, des gros trucs qui passent et tout ça. Bon, enfin bref, ils ont truqué les choses et à l'Assemblée nationale, ils sont arrangés pour que ceux qui n'étaient pas d'accord, ils ne soient pas là dans l'hémicycle. Ils ont fait voter ça à 3 heures du matin. Enfin, vous voyez, bon, on peut toujours truquer les choses. Donc, on veut quelque chose, on truque, bon, c'est tout. Et bon, ça a passé. Et, bon, vous n'avez rien entendu dans les journaux et tout ça. Bon, si dans le midi, Pyrénées, ça se bousculait. Mais au niveau national, non. Donc, quand on veut, on truque, mais ça, c'est la sagesse humaine. C'est que c'est la volonté de l'homme qui, par une sagesse supérieure, dit « ça, c'est bien pour la nation, donc on décide que c'est bien ». Voilà. Et même la démocratie est manipulée. Donc, à l'époque, eh bien, qu'est-ce qui a été décidé par ces sages? C'est de tuer Jésus, parce que Jésus représentait un danger pour la nation. Cette sagesse était logique. Il y avait une certaine logique, parce que les Romains, à l'époque, c'était le danger de l'époque. Et à chaque... siècle, à chaque âge, à chaque époque, il y a un danger qui est évalué par les sages. Ces sages prennent des décisions, c'est normal. Mais la plupart du temps, sauf exception, cette sagesse va à l'encontre du plan de Dieu. Simplement parce que le plan de Dieu nous heurte parce qu'il est d'un autre monde, d'un monde spirituel. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les sages ont décrété, ont jugé que Jésus devait mourir. Et qu'est-ce que Dieu a décidé? Qu'est-ce que Dieu a décidé? Je vous écoute. Que Jésus devait vivre. Vous voyez, les hommes, c'est bien les hommes qui ont décidé, non? Je rêve. Ils ont décrété que Jésus devait mourir, d'accord? Vous voyez, jugement devant le Sanhédrin, jugement devant Pilate, tout le monde a décrété que Jésus devait mourir. Et ils l'ont fait en toute conscience, en toute bonne foi, je veux dire. Vous voyez, la bonne foi, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. En toute bonne intention. Parce qu'ils étaient dans une logique humaine. Hello? Une logique humaine, rationnelle, compréhensible par les éléments qu'ils avaient. Vous voyez? Mais les éléments qui nous manquent. Et c'est pour ça que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Hello? Parce que la foi, elle dépasse les choses qu'on voit. Parce qu'il y a des choses invisibles. Il y a des plans qu'on ne connaît pas. Et si l'homme veut décréter qu'il est Dieu, qu'il est capable de se prendre en main, il se trompe. Et simplement, dans cette logique-là, déjà, il est trompé. Il est trompé au départ de l'hypothèse qu'il pose. Vous voyez ? C'est pas la mauvaise volonté. Les gens sont remplis de bonne volonté, souvent. Hein, je ne parle pas des corrupteurs. Donc, c'est pas ça, le problème. Mais c'est qu'en l'occurrence, là, dans cette logique, ils étaient... devant l'envahisseur romain. Ils avaient des promesses qu'ils seraient libres, et donc ils ont pris le Messie comme celui qui devait les libérer. Et la sagesse humaine à l'époque, c'était de dire Jésus doit mourir. Et Dieu a décrété que Jésus doit vivre. Et qui a raison? Qui a raison? C'est Dieu. Sachez que dans votre vie, c'est toujours Dieu qui doit avoir raison. Si vous voulez avoir raison, bah, vous allez souffrir. Vous allez tourner dans le désert, comme on dit, jusqu'à ce que vous compreniez que Dieu a raison. Voyez-vous, nous sommes tous faits de la même nature. nous sommes tous faits à partir de la terre. Nous sommes des Adams, d'Adam. Donc, ce qui est vrai il y a 4000 ans est vrai aujourd'hui, parce que la nature humaine ne change pas. Et donc, il nous faut être sages. Il nous faut prendre les enseignements de l'Écriture comme des enseignements de sagesse. Et même s'ils ont été écrits il y a 4000 ans, ils sont toujours vrais aujourd'hui. Et c'est pour ça que la parole de Dieu doit être notre base. Notre base de compréhension et notre base d'autorité. Et doit être l'autorité suprême dans nos vies. La parole de Dieu a dit, même si je ne comprends pas, je me soumets à la parole. Et là, je suis dans la bénédiction, parce que je suis approuvé de Dieu. Jésus était approuvé de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait être devant les plus grands de la nation, respecter leur autorité, même se soumettre à l'autorité. Mais, eh bien, il était soumis d'abord au Père, et il faisait ce que le Père lui disait. Et si nous nous sommes soumis au Père, eh bien, nous sommes dans le plan de Dieu, eh bien, le plan s'accomplira pour chacun de nous. Alors, et ça, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Ça ne se fait pas comme ça. Ça prend toute une vie pour apprendre à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Et là, Paul, Pierre, leur annonce ça. Il dit, voilà, vous, vous l'avez crucifié, mais Dieu, il lui a donné la vie. Parce que, dit-il, Dieu l'a ramené à la vie, il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible. Voyez-vous, là, on rentre comme dans des axiomes de physique. Voyez-vous, des axiomes de physique, si je prends un objet, il tombe. Parce que Dieu a créé une gravité, il a créé des lois. Il n'est pas possible que cet objet ne tombe pas. S'il ne tombe pas, ça veut dire qu'il y a un autre phénomène, de magnétisme ou autre, qui le tient. Mais il n'est pas possible. Voyez-vous, c'est aussi tranché que ça. Il n'est pas possible, il n'était pas possible que la mort le retienne dans son pouvoir. Nous, il y a un pouvoir sur nous, c'est le pouvoir de la mort. Il y en a ici qui se croient immortels, non ? L'autre fois, j'ai cliqué sur Internet, je suis tombé sur des trucs bizarres. Il y a un gars dans le Midi, là, je ne sais plus, dans les Cévennes, quoi, qui s'est pris pour un extraterrestre. Donc, il était habillé, tout bizarre et tout ça. Bon, ils l'ont interné dans une psychiatrique et tout ça. Et vous avez vu les vidéos, c'est hallucinant, quoi. Bon. Et il disait que Jésus revient, enfin bon, tout est mélangé, etc. Bon, ils ont dû l'interner, quoi. Mais, voyez-vous, parfois on se prend comme ça pour des héros et on ne sait plus ce qu'on dit, quoi. Hein. Mais là, Dieu a ramené Jésus de la mort parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Pourquoi la mort ne pouvait pas retenir Jésus ? Qui n'avait pas péché, ce qui était parfait. Et Dieu a créé, dans son intention, il a créé l'homme immortel. La nature humaine, enfin, l'homme, la création de l'homme, la création de la race humaine, elle était prévue immortelle. Nous avons tous été prévus de vivre dans l'éternité, éternellement. Vous le saviez, ça ? Ce n'est pas un scoop pour vous. Oui, c'est l'intention de Dieu. Ce qui a changé ce plan, c'est le péché, c'est la désobéissance. Mais l'intention de Dieu reste. Et parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il engage sa parole. Et si Dieu a prévu que l'homme est immortel, c'est qu'il sera immortel, mais à une condition, c'est que le prix du péché soit payé. C'est que on ne peut pas emmener le péché dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu, ce n'est pas possible. Sinon, vous le polluez directement. Il n'y a personne qui veut vivre dans un monde pollué. Les écolos, ils vous le disent. Bon. Mais dans le royaume de Dieu, le péché, ça pollue. Le vice, le mensonge, la rapine, tout ce qui pollue notre monde moral, eh bien, ça n'existe pas dans le ciel. Mais nous, nous l'introduisons. Nous continuons à l'introduire par le péché. Et Dieu a prévu que l'homme soit immortel. Et nous serons immortels grâce à Jésus. Amen. Grâce à Jésus. Et c'est pour ça que Si nous croyons, si nous acceptons Jésus, nous recevons la vie éternelle. Nous retrouvons cette œuvre première que Dieu a voulu faire pour nous. Et là, Pierre le rappelle que le sens de l'histoire, c'est que Dieu n'a pas perdu la boussole de l'histoire, c'est qu'il a prévu que la race humaine soit immortelle, et c'est en Jésus qu'elle va s'accomplir. Et Jésus n'a pas pu être retenu par les liens de la mort, parce que la mort, elle n'a de pouvoir que sur le péché. Et Jésus n'avait pas de péché. Il a porté notre péché, mais lui n'avait pas de péché. Donc quand Jésus est allé aux enfers, eh bien la mort n'a pas pu dire « je te retiens ». Elle était obligée de le lâcher, le troisième jour, il est ressuscité. Voyez-vous, c'est tout simple, la bonne nouvelle. Et nous avons cette bonne nouvelle annoncée au monde, pour leur dire non, la vie éternelle, Dieu nous l'a donnée en Jésus-Christ. Et vous pouvez vivre cette vie éternelle en Jésus, comme moi je la vis. Parce que les liens de la mort n'ont aucun pouvoir sur Dieu. Donc, voyez-vous, le message de Pierre, c'est un message d'espérance, c'est un message du sens de l'histoire. Voilà où l'histoire va, voilà d'où elle vient, là où elle va. Il donne des réponses aux aspirations internes. Et chaque être humain, qu'il soit athée jusqu'au trognon, il se pose cette question. Il se pose cette question. Même s'il le nie, il se pose cette question. Il est obligé de se poser la question parce qu'il est humain, parce que la mort l'attend, parce qu'il le sait. Ok ? Mais le problème, c'est que toute la société veut faire qu'on évacue cette question et qu'elle n'existe pas. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est l'ennemi qui est derrière. C'est lui le prince de ce monde. Et c'est lui qui veut faire en sorte, non, jouis de la vie, un profite aujourd'hui et demain tu verras, etc. etc. Ouais, c'est le mensonge. La réalité, c'est ça. Et chaque être humain se pose cette question. Et François Mitterrand, à la fin de sa vie, il a dit à son conseiller, eh bien, les hommes sont poussés par la vanité. La vanité, ça veut dire, il n'y a rien, quoi. Les gens vivent de rien, et c'est ce que aussi le message que Philippe a donné à ce jeune homme marocain, hein, que c'est pas l'argent, c'est pas la célébrité qui va donner, c'est de la vanité tout ça. La réalité, c'est Jésus. Jésus qui est celui, les prémices de celui qui nous a précédés. Amen. Donc Pierre, essentiellement, dans son discours, dans son annonce de l'Évangile, montre aux Juifs qui attendaient un Jésus qui allait sauver des Romains, montre un Jésus qui donne le vrai sens de l'histoire, le vrai sens de leur existence. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi Dieu les a créés ? Pourquoi Dieu a fait les choses ? Et que la mort, eh bien, c'est pour cela qu'il est venu, Jésus, c'est pour détruire les liens de la mort. Et que c'est la vie qui règne. Amen. Il donne la réponse à l'existence humaine. Alors, on va lire Paul, maintenant, qui a un discours un peu différent, qui s'adresse plutôt aux philosophes de son temps, aux athées. C'était idolâtre, hein, mais disons qu'il n'était pas juif, hein, qu'il ne connaissait pas le Dieu vivant. Dans Actes 17, versets 20 à 31, on va lire Actes 17. Le fameux discours d'Athènes. Hein, Paul, vous savez, il faisait aussi ses discours, enfin son évangélisation à partir de ce qu'il voyait autour de lui. Donc il s'est promené dans Athènes, il regardait, etc. Et à partir de là, il s'adresse à ceux qui sont là sur l'Agora. Acte 17, versets 20 à 31. Voilà comment il s'exprime. On va lire à partir du 16, parce qu'il y a le contexte. « Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes, épicuriens ou stoïciens, se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discours ?» D'autres disaient, il semble être un prédicateur de divinités étrangères. Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. La résurrection en grec, c'est Anastasis. Donc, ils pensaient que Jésus, c'était un homme et Anastasis, une femme. Donc, c'était un couple de Dieu, quoi. Voilà. Alors, ils le prirent le menèrent à l'aéropage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Hein, c'était des bavards. Hein. Un peu des Français qui aiment bien parler. Donc, ils étaient là que pour ça, pour discuter. Paul, debout, au milieu de la repoche, dit, voilà. Alors, donc là, on a le discours de Paul, l'équivalent de Pierre aux Juifs. « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, un dieu inconnu. » Parce que les Grecs étaient très superstitieux, hein, comme les Français d'ailleurs aussi. Hein, très superstitieux. Et ils avaient peur de blesser un dieu pour pas qu'ils aient plus la faveur, qu'il n'y ait pas les récoltes, qu'il n'y ait pas le commerce, etc. Bon. Donc la superstition fait qu'à un moment donné, vous vous protégez, ceinture, bretelle, tout ça. Bon, même si le dieu on ne connaît pas, hop, on l'adore. Bon, comme ça, on est tranquille. Voyez-vous, comme quoi la vanité, hein, c'est qu'on adore même ce qu'on ne connaît pas. Hein, on est prêt à faire n'importe quoi. Tout ça pour avoir des bienfaits. Paul dit, ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Voyez-vous, il reste très simple. Il reste très simple. Il dit, vous vénérez ça ? Bon, vous ne savez pas, mais moi je vous l'annonce. Ce Dieu inconnu, vous ne connaissez pas, vous voyez, il prend un élément de la culture pour dire, voilà, à partir de là, vous ne le connaissez peut-être pas, mais moi je vous l'annonce. Voilà, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est ça. Vous voyez ? Donc, utilisez la culture comme un élément d'introduction. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, le souffle en toute chose. Vous voyez, la vie revient. La vie est au centre de nos préoccupations avec Dieu, parce que Dieu nous donne la vie. Vous aimez la vie ? C'est la vie. Et très souvent, dans toutes les cultures et dans toutes les religions, et en particulier le catholicisme, ils s'occupent des morts. Vous n'avez pas remarqué ? Ils s'occupent des morts. On prie les morts, on fait des cultes aux morts. Ouais. Mon frère, qui pourtant a fait toutes ses études de petits et de grands séminaires jusqu'à 28 ans pour être prêtre, hein, bah, quand mon père est mort, hop, tout de suite, il fallait une messe pour les morts. Ça sert à quoi ? Bah oui, faut, et tous les ans, il faut une messe pour mon père. Puis ma mère aussi. Vous voyez, c'est les morts. Hein. On regarde dans le rétroviseur les morts. Attendez, c'est la vie qu'on veut. Allô ? C'est la vie. On regarde en avant, pas en arrière. Et ceux qui sont avec Jésus, ils sont vivants. Ils ne sont pas morts. Allô ? Vous voyez, donc on est dans une religion qui n'est pas biblique. On regarde à la vie. Donc, Paul dit simplement, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle en toute chose. Il a fait toutes les nations humaines. Et voyez là, Paul, il revient à l'histoire. Et l'histoire est importante, on le verra quand je vous montrerai un peu comment évangéliser. L'histoire est importante parce que ça se traduit dans le temps. Et le temps est totalement différent dans la Bible que dans le monde païen, que dans les cultures païennes, totalement, et dans notre monde à nous. Et donc, il replace les choses dans le temps. Dieu a prévu, Paul dit, Dieu a fait que toutes les nations humaines d'un seul homme habitent sur la face de la terre. Il a déterminé les temps et fixé les bornes de leur demeure. C'est-à-dire que si les nations existent, si les pays existent, etc., c'est Dieu qui l'a fait. Vous ne le savez pas ? C'est Dieu qui l'a fait. Hein ? Dieu est à l'origine de ces choses. Ne cherchez pas des origines. Maintenant, on pense que l'homme descend du singe. Voilà. Depuis Darwin. Bon, est-ce que c'est ça la réalité ? Alors, il y en a qui se battent parce qu'ils sont contre, qu'ils sont pour, etc. Vous voyez, déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon, il faudrait savoir. Si c'est scientifique, tout le monde l'accepte, puis c'est tout. Non. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a déterminé les nations et fixé les bornes de leur demeure. Ça vient de Dieu. Et on le sait, ça vient de Babel. On a l'histoire. L'explication vient de l'histoire. Parce que là aussi, il y a eu péché, et Dieu a distribué, enfin, il a poussé les nations avec les langues, etc., sur la face de la terre. Donc, Paul parle du sens de l'histoire. Dieu a créé les nations. Et pourquoi il les a créées ? Afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Voyez-vous, Dieu, on le trouve en cherchant, en le tâtonnant. Et tous les témoignages, pratiquement, c'est des gens qui cherchent Dieu. Et même dans les pays musulmans, Jésus se manifeste à eux parce qu'ils cherchent Dieu. Donc, nous, c'est toujours pareil. Il faut que nous continuions à chercher Dieu. Un jour, nous le verrons face à face. Un jour, nous serons en face de lui. Un jour, nous verrons les choses telles qu'elles sont. Mais en attendant, nous devons le chercher. Dieu se laisse chercher par ceux qui trouver par ceux qui le cherchent. Or, l'apôtre Paul dit, mais il n'est pas loin de chacun de nous. Voyez-vous, la relation, il ramène à une relation. Il dit, voilà, Dieu, vous cherchez tous Dieu, puisque vous faites des cultes partout, vous essayez d'être en faveur de tous les dieux. Ben, je vous annonce ce Dieu-là, mais ce Dieu-là, il n'est pas loin de vous. Cherchez-le, mais n'adora pas des idoles. Et après, il montre la vanité de ces idoles. Il dit, ainsi, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, des pierres sculptées par l'art et l'imagination des hommes, etc. Vous voyez, nous ne devons pas penser ça. Or, on pense ça. Dans toutes les religions païennes, dans le paganisme, c'est ça. C'est que c'est des idoles de pierre, d'argent, de toutes sortes de choses qui sont inanimées, qui n'ont pas de vie. Et on leur attribue une vie. Alors, le problème dans l'idolâtrie, c'est que souvent, ces idoles, ils ont une vie. Mais ce sont des démons. Des démons derrière les statues. Et j'étais assez étonné de frapper même d'une spécialiste de l'Égypte, et pas du tout. Enfin, je ne sais pas si elle est chrétienne, mais bon. Elle a écrit un livre. Et elle explique comment en Égypte, ils donnaient la vie aux statues. Donc, vous savez, des grandes statues. Des fois, tout le long d'une procession funéraire, enfin, pour aller dans le temple de Karnak ou Luxor, etc., eh bien, ils faisaient les statues, bon, et comme ils croyaient qu'ils étaient animés, bah, ils plaçaient des démons sur les yeux avec des incantations et tout ça, pour que des yeux ils sortent. Et donc, ils étaient habités par des démons. Et par exemple, Josué Daniel, qui nous a beaucoup visité à une certaine époque dans l'église, il était indien, enfin il est indien, et son père a eu vraiment des résurrections de morts beaucoup dans l'église. Le communisme était très fort, d'ailleurs en Inde c'est très dur hein, d'évangéliser. Eh bien, il disait, n'allez pas dans les temples là-bas. Quand vous visitez, n'allez pas dans les temples hindous ou autres, vous exposez. Vous exposez parce que c'est rempli de démons. Hein. Et il y a beaucoup de missionnaires qui passent outre ces recommandations, qui vont dans les temples, bon, c'est visiter, mon entreprise m'envoie là-bas, j'y vais, etc. Faites attention. Parce que c'est des démons, et des démons de très haut rang. Ne vous exposez pas. Si Dieu vous demande de rentrer, je ne sais pas, Dieu peut avoir des raisons, mais ne vous exposez pas. C'est vraiment habité. Et c'est habité par le processus du rituel qui les amène à placer des démons dans ces statues. Donc vous voyez, il y a une grosse illusion. D'un côté, on adore une statue qui est de la pierre, un truc, etc. Mais comme il y a une puissance qui sort, on croit que c'est Dieu. Vous voyez comme quoi l'ennemi, il emmène les gens dans le mensonge, dans l'illusion. Et ce n'est que de l'illusion, puisque tout ça, ça se termine par l'enfer, par les liens de la mort qui vous retiennent indéfiniment dans leurs liens. Parce que Jésus n'est pas là pour vous sauver. Et nous avons le message, comme Paul l'a eu, et là on ne peut pas continuer le message, mais on continuera la prochaine fois, c'est qu'il leur montre combien ces idoles sont des vanités. Et que s'ils se tournent vers le Dieu vivant, s'ils se tournent vers ce Jésus qu'il prêche, et la résurrection, qui n'est pas sa femme, qui est simplement la résurrection du corps que Jésus a destiné à chacun de nous. Et vous, c'est ça le nouveau message. Bien sûr, ils ne rentrent pas dans leur manière de comprendre les choses. Donc, il est obligé de les sortir de cette manière. Mais c'est difficile, même Paul. Il n'y a eu que Denis l'Aréopagite, qui semblerait être un parlementaire de l'époque, qui acceptait, enfin, il y a peut-être d'autres, mais qui ne sont pas mentionnés, celui-là est mentionné. Et les autres se sont détournés de lui, en disant, bon, on t'écoutera une autre fois, ton truc. Vous voyez, quand on est pris dans la philosophie dans la sagesse humaine, ce sont des choses qu'on ne reçoit pas, les choses de la parole. On ne les reçoit pas. Il faut qu'il y ait un travail qui se fasse dans nos cœurs, parce que nous devons chercher. Si nous sommes là simplement à dire, oh, bah, tiens, c'est vachement intéressant, parle-nous de ton Dieu, on t'écoute, machin, etc. Si vous le prenez de haut comme ça, effectivement, ça ne marche pas. Simone de Beauvoir, que j'ai cité dimanche dernier, ou dimanche d'avant, qui est une des philosophes qui a imprégné notre jeunesse avant 68, et même 68, je crois. Qu'est-ce qu'elle a dit de la vie? Elle a dit, la vie est absurde. C'est vachement, hein, vachement motivant, ça, pour les, la jeunesse. La jeunesse, c'est absurde. Mais c'est elle, si mes souvenirs sont exacts, je crois. Elle a donné, je ne sais plus là combien, c'est Michel qui devrait être là. C'est elle, ma mémoire, hein. Enfin, littéraire, en tout cas. Parce que moi, mais je crois qu'elle lui a donné 3 minutes. Elle a dit, je ne sais plus, c'est peut-être 15 minutes, je ne sais plus. Enfin, et elle a dit à Dieu, je te donne 3 minutes pour te révéler à moi. Si tu ne te révèles pas, moi, je ne crois pas en toi. Vous voyez, les défis, incroyables. Bien sûr, c'est rien passé, il dit, bon, ben, je crois pas en Dieu, il ne s'est pas révélé. C'est comme celui qui dit, bon, ben, j'étais dans le ciel, à tourner autour, Dieu, je ne l'ai pas vu. Voyez, ce genre de message, de mensonge, qui par des gens influents, hein, qui est donné pour confirmer l'illusion du mensonge. Et c'est terrible. Et des gens se servent de ça pour croire à ça. Donc ils vont de vanité en vanité, de déception en déception, d'illusion en illusion, de mensonge en mensonge. Et on n'en sort pas. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas les sortir du mensonge. C'est pour ça que les Français, c'est très difficile, parce qu'ils se sont enfoncés dans du mensonge depuis des siècles, depuis 2 siècles au moins. Et il faut vraiment notre vie qu'elle reflète la présence de Dieu en nous. Il faut qu'elle fasse envie. Il faut que les Français voient que nous sommes habités par ce Dieu vivant, par cette vie éternelle qui est en nous, par cet âge, le siècle à venir, hein, qui rentre dans ce siècle présent, dans cet aion en grec, hein, qui est l'âge à venir, qui vit dans l'âge présent. Nous devons être des personnes incarnées par le message de l'Évangile, pour que nous ayons une autorité, pour que nous soyons crédibles. Parce que le monde entier est rempli d'illusions, et nous, les Français, nous sommes ceux qui sont les plus illusionnistes de la planète, parce que nous enseignons les autres dans cette illusion. Nous avons besoin de nous repentir. Dieu nous a donné des talents extraordinaires, extraordinaires, pour l'enseignement. Dieu veut restaurer cela. Mais faisons attention que nous ne tombions pas nous-mêmes dans cette illusion, et soyons de ces témoins de Jésus-Christ, de la puissance de la vie qui habite en nous, parce que nous vivons continuellement avec le Seigneur et nous propageons sa parole qui est esprit et vie. Amen.